VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel du lundi 6 mai. Eric Manirakiza et Raïssa Girondin, votre compagnie. Voici les titres.
Au Niger, l'explosion d'un camion-citerne près de l'aéroport à Niamey fait 55 morts et 36 blessés.
Au Sénégal, le guide religieux Cheikh Bétio Thioune, condamné par contumace à 10 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre.
En Afrique du Sud, plus de 26 millions d'électeurs choisissent mercredi les députés qui vont élire à leur tour le futur président.
Une trêve entre Israël, le Hamas et le djihad islamique ramène le calme dans la bande de Gaza après 2 jours de violence qui ont fait 25 morts.
Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Niger, près d'une soixantaine de personnes sont mortes calcinées à la suite de l'explosion d'un camion-citerne à quelques mètres de l'aéroport de Niamey. Les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, le feu est parti d'une étincelle dégagée par le moteur en marche de la moto d'un des nombreux jeunes qui étaient venus siphonner le carburant qui coulait encore du camion renversé quelques minutes plus tôt. Sur le champ, 55 corps sont calcinés et parmi les 37 brûlés au deuxième voire au troisième degré pour la plupart d'entre eux, 3 ont succombé à la mi-journée au niveau des centres de santé où ils ont été admis. En plus de la citerne, l'on pouvait également apercevoir sur les lieux du drame les épaves de 5 véhicules et d'une vingtaine de motos. Le Premier ministre est allé tôt le matin sur les lieux de la tragédie. Le président Issoufou, lui, est allé au chevet des brûlés à l'hôpital national de Niamey. Et sur son compte Twitter, il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Bénin, le corps du guide des touristes français a été retrouvé dans le parc de la Pendjari, dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Les touristes français sont toujours portés disparus depuis le mercredi 1er mai. Le Quai d'Orsay refuse pour l'instant de parler d'enlèvement, mais évoque plutôt une disparition inquiétante.
Au Sénégal, le chef religieux Cheikh Bétio Thioune a été condamné par contumace à 10 ans de travaux forcés pour le meurtre par ses disciples de 2 d'entre eux en 2012. Le verdict a été prononcé ce lundi au terme d'un procès très médiatisé. Abdourahman Dia.
La justice a reconnu ce dignitaire de la confrérie Mouride, une des plus influentes au Sénégal, coupable de non-dénonciation de crimes et complicité de meurtre. Son chambellan, Cheikh Faye, a été reconnu coupable des mêmes faits et condamné à la même peine. 10 autres prévenus ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés et 2 autres à 8 ans de travaux forcés. Le procureur de la chambre criminelle d'Hombourg, Youssou Diallo, avait requis les travaux forcés à perpétuité contre Cheikh Bétio Thioune et 16 prévenus poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, recel de cadavres, inhumation sans autorisation administrative, détention illégale d'armes et non-dénonciation de crimes. Le tribunal n'a pas exigé l'emprisonnement de Bétio Thioune en raison de son âge, mais a placé ses biens sous séquestre et alloué aux héritiers de chacune des 2 victimes 100 millions de francs CFA. Le chef religieux en traitement médical en France était jugé depuis le 23 avril en son absence.
Abdulrahman Dia, au Ghana, la police a arrêté 8 personnes soupçonnées d'être des séparatistes qui voulaient déclarer indépendante la région orientale du pays sous le nom de Togoland Occidental. Ils ont été arrêtés dimanche dans la ville de Ho, au nord-est d'Accra, la capitale.
L'Afrique du Sud vote mercredi pour élire ses députés et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales. 3 partis dominent la vie politique de ce pays. Un bref portrait de leur leader avec Irénée Herman Ongbo.
Cyril Ramaphosa, 66 ans, dirige depuis décembre 2017 l'ANC au pouvoir et prendre les rênes du pays 2 mois plus tard en poussant Jacob Zuma vers la retraite anticipée. Né dans le township noir de Soweto dans la banlieue de Johannesburg, il a dirigé les négociations qui ont abouti à la fin de l'apartheid en 1994. Les sondages indiquent qu'il devrait conserver sa majorité parlementaire le 8 mai. Il doit affronter le jeune chef de l'opposition Mousie Mehman de l'Alliance démocratique. À 38 ans, Maiman est le premier chef noir du principal parti d'opposition sud-africain. Né lui aussi à Soweto, il n'a rejoint l'Alliance qu'en 2009 pour être propulsé à sa tête 6 ans plus tard. L'Alliance démocratique a battu l'ANC des villes emblématiques Johannesburg et Pretoria. Enfin, Julius Malema, 38 ans que l'on surnomme le trouble fête, dissident de l'ANC, il a fondé les combattants pour la liberté économique en 2013. Rebelle et provocateur, il s'est imposé en défenseur autoproclamé des jeunes et des pauvres et il tirait à boulet rouge sur le président Jacob Zuma. Son mouvement a le vent en poupe au sein de la population noire. Il est crédité de 10 à 15% des intentions de vote le 8 mai.
Crise au Cameroun. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport publié aujourd'hui un recours régulier à la torture, à la détention au secret et de disparition forcée des autorités camerounaises contre des séparatistes anglophones. Par ailleurs, à l'initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 13 mai sa première réunion sur la crise au Cameroun anglophone qui portera sur la situation humanitaire.
Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a rejeté la requête du collectif Appel à agir qui demandait une expertise médicale pour vérifier la capacité du président Ali Bongo Ondimba à diriger le pays. Ce collectif regroupe les opposants et les membres de la société civile. Pour la justice gabonaise, seul le gouvernement ou les deux chambres du Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de la présidence de la République.
Au Soudan, une force controversée de paramilitaires a annoncé avoir arrêté plusieurs personnes et saisi des armes durant un raid lundi à Khartoum. Selon la force de soutien rapide, ce raid a permis de mettre en échec des plans visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du Soudan.
La Cour pénale internationale a décidé ce lundi de ne pas envoyer le Soudan devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La CPI a également décidé de ne pas renvoyer l'affaire devant l'Assemblée des États partie au statut de Rome. Mais elle a confirmé son jugement de décembre 2017 selon lequel la Jordanie a manqué à ses obligations en n'arrêtant pas en 2017 l'ex-président soudanais Omar el-Béchir.
En Libye, le chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale, Fayez el-Sarraj, a annoncé aujourd'hui une tournée des capitales européennes, une annonce qui intervient au lendemain de l'appel de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, à redoubler d'efforts pour conquérir la capitale Tripoli.
Le calme est revenu dans la bande de Gaza à la faveur d'un cessez-le-feu annoncé par les Palestiniens. Cette trêve intervient après le plus grave excès de violence avec Israël depuis plusieurs années. Des précisions de John Lyndon.
Après 2 jours d'escalade, 25 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza et 4 en Israël. Les tirs de roquettes de l'enclave palestinienne ont cessé ainsi que les représailles israéliennes par des tirs de missiles. C'est la plus grave flambée de violence depuis 2014. Ce cessez-le-feu, obtenu grâce à la médiation égyptienne, est entré en vigueur avant le lever du jour, en ce jour du Ramadan. L'armée israélienne a annoncé la levée de toutes les restrictions imposées aux populations israéliennes voisines de Gaza. Sans confirmer la trêve, le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est contenté d'un bref communiqué disant que la campagne n'est pas terminée. Le Hamas et le djihad islamique ont été frappés avec une grande force et Israël est prêt à continuer, a-t-il poursuivi. Un responsable du djihad islamique souligne que l'accord vise aussi un allègement du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza depuis plus de 10 ans. Israël justifie ce blocus par la nécessité de contenir le Hamas qui refuse toujours de reconnaître l'existence de l'État hébreu.
Ici aux États-Unis, les démocrates ont annoncé aujourd'hui qu'ils comptaient ouvrir dès mercredi une procédure contre le ministre de la Justice Bill Barr pour entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès. C'est à la suite de son refus de leur livrer le rapport complet sur l'affaire russe. Une version expurgée de certaines données sensibles du rapport du procureur spécial Robert Mueller a été publiée le 18 avril.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'en est pris à l'attitude agressive et provocatrice dans la région de Beijing et de Moscou. Il reproche notamment à la Russie de remilitariser la région. L'administration du président Donald Trump va désormais s'attacher à contrecarrer ces deux pays, a indiqué M. Pompeo en marge d'une réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique à Rovaniemi en Finlande.
La France a condamné aujourd'hui les tirs de missiles effectués samedi par la Corée du Nord et a appelé Pyongyang à reprendre au plus vite des discussions avec Washington pour une dénucléarisation de la péninsule. Pyongyang a affirmé avoir procédé à des tests de lance-roquettes et d'armes tactiques guidées. Les États-Unis doivent encore déterminer si ces tirs violent le moratoire sur les tirs de missiles balistiques à longue portée.
Les pourparlers sur la paix en Afghanistan entre États-Unis et talibans à Doha marquent une pause aujourd'hui, premier jour du Ramadan. Les négociations doivent se poursuivre pour discuter en détail de deux points et parvenir à un accord final. Il s'agit d'un calendrier de retrait des forces américaines et des promesses des talibans en matière de contre-terrorisme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'Angola va recevoir de la Banque mondiale un prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars en juin prochain. Cet argent servira à l'exécution de projets d'infrastructures initiés par le gouvernement Lourenço. La Tribune Afrique écrit que l'enveloppe ira notamment à l'agriculture, les télécommunications, l'eau, l'électricité et le capital humain. Les fonds prêtés par la Banque mondiale à l'Angola s'élèveront donc au total à 2,4 milliards de dollars. Au Sénégal, la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur l'importation des mangues entrera en vigueur dès le 1er septembre de cette année. Cette loi a été introduite en réponse au nombre élevé d'interceptions d'importation de mangues dues à la présence de mouches de fruits. Les exportateurs devraient dès maintenant travailler à se conformer à la nouvelle réglementation afin d'assurer la continuité des exportations de mangue pendant la saison 2020. Pour terminer, cette année, la Tunisie obtiendra de la Banque africaine de développement environ 500 millions de dollars pour les secteurs de l'énergie, la finance et l'infrastructure, selon l'agence Ecofin.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Le Zamalek et Berkane sont les finalistes de la Coupe CAF.
Oui, face aux Marocains de Berkane et en ballotage favorable après leur succès 2-0 lors du match aller, les Tunisiens du CS Sfaxien ont pris l'eau dans un stade municipal de Berkane bouillant. Score final 3-0 pour la Renaissance sportive de Berkane grâce aux réalisations d'Omar Namsaoui, du Burkinabé Youssoufou Dayo et du Togolais Kodjo là-bas. Écoutons ce dernier.
C'est le courage et la détermination. On n'avait rien à faire avant le match parce qu'on avait perdu 2-0 et on s'est mobilisé, on s'est encouragé, la main dans la main et on a fait un grand match, j'espère, aujourd'hui. Et on a eu la chance de marquer un peu plus tôt dans le match. Et voilà, on a remporté ce match. On reste concentré encore. Il reste encore deux matchs aller-retour. Donc, à nous d'être concentrés pour pouvoir faire quelque chose de très, très historique.
Koudjo, là-bas au micro d'Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca. Précisons que les joueurs et les membres du staff du club tunisien s'en sont pris au corps arbitral sénégalais à la fin de la rencontre en finale. Les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane affronteront les Égyptiens du Zamalek qui se sont eux contentés d'un match nul sur la pelouse de l'étoile du Sahel, 0-0 après leur victoire 1-0 à l'aller. Le 19 mai en aller et le 26 en retour, l'un des deux clubs tentera de soulever pour la première fois le trophée de la Coupe CAF.
On connaît aussi l'affiche de la finale en Ligue des Champions.
Oui, ce sera l'Espérance sportive de Tunis contre le Wydad de Casablanca, vainqueur à l'aller 1-0. Le club tunisien s'est contenté d'un match nul 0-0 à Lubumbashi face au tout-puissant Mazembe. Dans un grand jour, Moez Ben Chirifia, le gardien de but espérantiste, a été infranchissable et a permis à ses coéquipiers de défendre leur titre en finale pour la 8e fois de leur histoire. Dans l'autre demi-finale, les Marocains du Wydad de Casablanca ont tenu le choc à Pretoria devant Mamelodi Sundowns 0-0 malgré les assauts répétés des Sud-Africains. Le WAC se qualifie grâce à sa victoire 2-1 à l'aller. La finale se jouera en deux matchs, l'aller le 24 mai à Tunis et le match retour le 31 mai à Casablanca.
Athlétisme pour finir, Eliud Kipchoge veut passer sous la barre des 2 heures, Yakuba.
Et oui, le Kenya va retenter de parcourir les 42 kilomètres du marathon en moins de 2 heures. La date de cette nouvelle tentative n'est pas encore décidée, mais devrait intervenir fin septembre ou début octobre prochain. Le champion olympique de Rio 2016 avait déjà tenté de réaliser le même défi en mai 2017. Il n'avait alors échoué qu'à 25 secondes des 2 heures, habité par une voiture qui lui donnait le tempo, une performance non homologuée par l'IDE. 2AF. Compte tenu de ces conditions, Kipchoge a récemment remporté le marathon de Londres pour la 4e fois en 2h02:37.
C'était Yacouba Ouedraogo. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raissa Girondin et Eric Manirakiza, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui.
Première prise de contact ce matin au Mali du nouveau gouvernement lors d'un conseil de cabinet. Boubou Cissé, le Premier ministre, et les membres du gouvernement auront à relever plusieurs défis, la crise scolaire, l'apaisement du climat social et politique, les réformes institutionnelles, les concertations nationales et surtout la sécurité. Les réactions à Bamako avec Kassim Traoré.
Pour certains observateurs, la tâche s'annonce rude et le nouveau gouvernement n'aura pas de temps de grâce. Alexis Calambri, analyste.
Boubou, contrairement à ce qu'on voit, n'est pas un enfant de cœur. Hein. C'est vraiment un converti. Il a vraiment du répondant pour jurer. Je pense que nous avons là une dernière chance. Nous avons en une personne assez de critères qui nous permettent d'aller. Boubou en lui-même est une synthèse du Mali. Qu'il n'y ait pas de blanc-seing, que personne ne lui fasse des cadeaux, mais que tout le monde soit à la tâche pour vraiment aider le Mali à s'en sortir.
L'absence des groupes armés dans la nouvelle équipe gouvernementale est déplorée par Makan Kone, journaliste.
L'une des missions essentielles de ce gouvernement, c'est-à-dire que si vous lisez bien l'accord, c'est la discussion autour de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue de ce dalifé. Donc si les mouvements armés ne font pas partie du gouvernement, je me dis on va difficilement avoir les moyens de mettre, même de discuter essentiellement autour de cet accord. Parce qu'ils sont quand même une partie prenante de cet accord qui sont signés.
Dans la rue, les Maliens critiquent diversement l'équipe de Dr Boubou Cissé.
Des postes ont été attribués à des gens qui n'est pas forcément leur domaine. On ne s'attendait pas à ça, c'est trop.
Quand on regarde sur la scène politique, surtout de l'opposition, les leaders de l'opposition, Tchéblin Rami surtout, qui était l'un des grands leaders de l'opposition, ont rejoint l'équipe gouvernementale. À un moment donné, le peuple se sent trahi.
Certains ministres qui auraient dû partir, qui restent, qu'on affecte à d'autres départements, même s'ils n'ont pas les compétences requises pour assumer ces fonctions. Ce qu'on peut leur dire, c'est de faire en sorte que les tensions du moment soient vite dissipées.
Les chefs de file de l'opposition souhaitent une bonne chance au gouvernement. Soumaïla Cissé trouve qu'il y a trop de ministres.
Marque à premier abord, 38 ministres, ça fait beaucoup. Nous avons une situation économique et financière extrêmement difficile. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait le souci d'économie en ce moment-là. Mais ce qui est important aussi, c'est que le gouvernement puisse s'atteler très vite au dialogue annoncé, dialogue social, dialogue politique, dialogue national, pour qu'on puisse voir de près l'ensemble des difficultés que le pays a. Et enfin, je le souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de chance.
Après son premier conseil de cabinet de ce matin, le gouvernement fera sa rentrée le mercredi à la faveur de son premier conseil. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a totalisé 100 jours depuis son avènement à la tête du pays. Les tout premiers pas du successeur de Joseph Kabila sont diversement commentés. Certains lui reprochent son alliance avec l'ancien président de la République. Les autres encouragent ses premières actions. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si à la coalition Lamuka on qualifie son premier bilan de catastrophique au plan politique, économique et de la gestion des finances publiques, à l'UDPS on s'en satisfait. Paul Tshilumbu, le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, souligne notamment la décrispation politique qui s'observe depuis que Félix Tshisekedi a été élu président.
Prenons par exemple le secteur de la décrispation politique. Djamil Ndongala est dehors, ce qui était impossible hier. Jean-Claude Muyambo a retrouvé sa liberté. Franck Diongo est dehors, firmé en Ngambi. Moïse Katumbi ne croyait même plus qu'il pouvait revenir au Congo. Aujourd'hui, il a été innocenté parce que le président Félix Tshisekedi a laissé la justice faire son travail en toute indépendance. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi a son passeport.
Élu de Kinshasa, le député national Patrick Muyaya souligne, lui, la volonté politique dont a fait montre Félix Tshisekedi, mais lui recommande de très vite prendre des décisions qui vont améliorer les conditions de vie des Congolais.
Le principal bilan qu'on peut retenir de son jour du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est la volonté politique dont il a fait preuve, tant au plan politique, diplomatique, social qu'économique. En son jour, aucun pan, aucun bâtiment, rien ne pouvait de substantiel être construit physiquement. Mais en son jour, il y a un leadership qui a été prouvé, une volonté politique qui a été consolidée parce que c'est la volonté politique qui ouvre le chemin. Et nous souhaitons que pour cette nouvelle phase qui commence, que les présidents mettent un coup d'accélérateur, notamment dans la désignation du Premier ministre. Le peuple est très impatient.
Le bilan de Félix Tshisekedi pour ses 100 premiers jours à la tête du pays est jugé encourageant pour le mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, qui déplore tout de même son mariage avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila.
Pour nous, la Lucha, nous pensons que le bilan du président Tshisekedi est encourageant. Il y a cependant des efforts supplémentaires qui doivent être consentis. Il y a bien sûr des signes positifs, principalement ce qui concerne la réouverture de l'espace civique et d'un dialogue entre l'institution présidente de la République et les citoyens. Mais avec un peu plus de volonté et de vision, les présidents actuels auraient pu mieux faire dans le sens de poser déjà les bases d'un mandat de rupture. Que le pouvoir sortant de l'ex-président Kabila et le pouvoir entrant du président actuel soient le jour et la nuit.
Dans les rues de Kinshasa, les avis sont partagés entre encouragement, scepticisme et pessimisme.
À mon avis, c'est la volonté politique qu'il a affichée vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis du social. C'est seulement ça qu'on peut féliciter pour lui. Mais pratiquement, on n'a rien vu parce que la population, surtout de la ville de Kinshasa, les fonctionnaires, les provinces ont du mal à juger les 100 jours parce que pratiquement sur le terrain, on n'a rien vu.
Kinshasa est très grand. C'est seulement pas des petites routes qu'il est en train de construire, mais il fallait qu'il construise d'autres routes. Et puis, on a besoin du Premier ministre et d'autres gouvernements en place.
Selon moi, ces 100 jours, moi je pense, pour moi c'est un échec parce que là, il était un peu trop pressé avec les choses.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Destination dans le pays arc-en-ciel, un quart de siècle après les premières élections multiraciales de 1994, les Sud-Africains se rendent aux urnes ce mercredi 8 mai pour des élections nationales. La ANC au pouvoir devrait arriver largement en tête de ce scrutin, mais le parti de Mandela traverse une crise sans précédent. Les nombreux scandales de corruption et l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont fortement écorné l'image de l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid. Patricia Huron a suivi hier le dernier grand meeting de campagne de la ANC à Johannesburg.
Dans le stade d'Ellis Park à Johannesburg, devant une foule vêtue des couleurs jaune, noir et vert de l'ANC, Cyril Ramaphosa tenait dimanche son dernier grand meeting de campagne dans la capitale économique du pays. Une opportunité pour le chef de l'État de réaffirmer sa volonté d'incarner une nouvelle image du parti au pouvoir depuis 1994.
Nous acceptons les critiques qui nous ont été faites. Nous admettons que nous avons fait des erreurs. Et nous disons sans équivoque que nous sommes maintenant prêts à servir le peuple sud-africain.
De nombreux scandales de corruption ont entaché l'image de l'ANC. Mais selon les sondages, malgré les critiques, le parti est presque certain de sortir vainqueur de ce scrutin national et de conserver sa majorité au Parlement. Cyril Ramaphosa, qui tient son mandat des députés, sera alors assuré d'être reconduit à la tête de l'État. Parmi les militants venus à Ellis Park, beaucoup voulaient encore croire à une nouvelle ère grâce à ce nouveau leader qui a succédé à Jacob Zuma.
Il peut éradiquer la corruption. Oui, je pense que Ramaphosa peut faire ça. Je crois en l'ANC. L'ANC a toujours été là pour nous. Donc pourquoi laisserais-je tomber l'ANC? Je ne peux pas faire ça. Si les individus sont corrompus, il faut s'en débarrasser. Mais l'ANC reste le parti du peuple.
La lutte contre la corruption est l'une des principales demandes des électeurs, mais l'autre grand défi de Cyril Ramaphosa sera la relance d'une économie qui se porte mal et la lutte contre le chômage et les inégalités qui rongent toujours le pays. Une tâche qui ne sera pas facile, estime l'analyste politique indépendant Daniel Silke.
C'est une élection critique pour l'ANC. Le vote pour le parti s'érode de manière exponentielle à chaque élection. Il y a une frustration, pas seulement par rapport à la corruption, mais aussi à la faible performance économique. C'est peut-être la dernière chance pour l'ANC d'essayer de changer les choses.
Le parti reste aussi profondément divisé et l'influence d'anciens alliés de Jacob Zuma limite la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa pour imposer des réformes. À l'issue de cette élection, c'est au sein de l'ANC qu'un nouveau rapport de force se jouera. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les musulmans du monde entier ont débuté le Ramadan. Ce jeûne commémore la révélation du Coran au prophète Mahomet et fait partie des cinq piliers de l'islam. Au Gabon, l'islam est la troisième religion de ce pays, dominée par le christianisme. Dans ce reportage, Ismaël Obiangze raconte comment les Gabonais ont débuté leur mois de jeûne.
L'appel à la prière convoque quelques dizaines de fidèles à la mosquée Hassan II de Libreville. C'est un culte ordinaire de mi-journée en ce début du Ramadan au Gabon. Ibrahim Bouné, l'un des prédicateurs de cette mosquée.
Il nous est prescrit ce jeûne, comme il en a prescrit sur tous ceux qui nous ont précédés comme communauté, afin que nous ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne de toutes ces références divines, il vient pour nous recadrer la vie.
Mamadou Diallo, fidèle à la mosquée, Hassan II.
La semaine passée, les deux jours là, il y avait la salaire. Mais regardez aujourd'hui comme la journée est bien. Tout le monde trouve que ça là, c'est quelque chose qui est important parce que ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala.
Durant tout ce mois sacré, les musulmans feront preuve de solidarité, d'altruisme. Joya Ahmed Aziz est musulman.
Être un musulman doit d'abord penser à ceux qui sont dans la souffrance et demander à Allah pour que Allah le facilite et bien après Allah pense aussi à la personne qui demande pardon à eux.
Sur le marché, les étals sont surchargés de produits bons pour la rupture du jeûne. Très heureuse de recevoir VOA Afrique, Adja Niagadé nous fait visiter sa table.
Je commence à vendre la date avec le kengeliba pour le jeûne, pour couper le jeûne avec ça. On prépare ça. Quand c'est chaud, on mélange avec du citron pour ne pas être un peu fatigué, quoi. Ça aussi, c'est pour le cure-dent. Avant de couper le carême, tu nettoies d'abord la bouche. Ou après, ça c'est le bouilli. Ça aussi, on prend ça pendant les ramadans. Voilà.
Dans ce brouhaha du marché, Malik Tunkara, opérateur économique, se limite à l'essentiel des courses du premier jour de ramadan.
J'ai acheté un peu de sucre avec un peu de lait. Donc je pense que demain, je vais faire le maximum de courses.
Alors, ce que vous avez pu constater au niveau des prix, est-ce que quelque chose a bougé ou alors les prix sont favorables au marché?
Bon, je pense que quelque chose a changé. À mon avis, hein, l'alimentaire, je pense que ça a un peu changé. Les prix sont abordables. Par contre, le sucre, le lait, je pense que ça va.
Les musulmans représentent 10% de la population du pays, estimée à 1,8 millions habitants. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. C'est tout pour cette édition à la console Wojtek Zojtek dit Hightech. Le suivi de l'actualité, la mise en onde, Lionel Lunanira et Ahima.
C'était Raissa Girondin et Eric Manirakiza à la présentation. On reste connecté sur notre page Facebook et notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.
Bienvenue à bord.